Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 13 décembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une lettre jetée négligemment dans la rue et qui va être ramassée par une passante pour qui elle va prendre un tout autre sens. C'est une nouvelle de Paul Arène intitulée « La lettre trouvée ». J'ai reçu quelques messages me demandant si le podcast était maintenu pour les fêtes, notamment pour le réveillon de Noël et celui de la Saint-Sylvestre, et c'est donc oui, il n'y aura pas d'interruption du podcast pour cette fin d'année. Somnifère est un podcast indépendant et je remercie les oreillerspaul.fr de le soutenir ce mois-ci. Ce sont des oreillers à mémoire de forme et vous trouverez le lien dans la description du podcast. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et s'il fait un peu frais, remontez votre couverture jusqu'aux épaules. Quand vous êtes prêt, on va commencer par deux grandes inspirations. La première en gonflant le ventre et la seconde en gonflant les poumons. Prenez une grande inspiration. Gonflez votre ventre. Et expirez par la bouche. À nouveau, une grande inspiration. Gonflez vos poumons cette fois. Et expirez à votre rythme. Reprenez un rythme normal et ne faites rien d'autre que d'observer votre respiration et notez comme à chaque expire, votre corps semble s'enfoncer davantage dans le matelas. Détendez votre visage, vos sourcils, votre front, votre mâchoire, sentez comme votre front semble plus frais que le reste de votre visage et comme cela est agréable. Détendez vos épaules et sentez-les se relâcher de tout leur poids. Imaginez que toute la tension, tout le stress et les émotions indésirables s'évacuent par vos extrémités à l'expire, par le bout de vos doigts et par vos orteils. Vous pouvez sentir les quelques restes de tension alors qu'ils traversent vos mains et vos pieds à mesure que vous expirez avant de s'évacuer, de vous laisser parfaitement relâché. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire, la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent sans rien attendre de particulier. Portez votre attention sur vos pieds. Et massez-les mentalement un par un. D'abord, le pied gauche, les deux pouces sur la plante du pied, qui forment une pression légère mais ferme, qui vont de haut en bas, de droite à gauche, et forme de petits cercles. Observez un instant comme c'est agréable. Le pied droit à présent, les deux pouces sur la plante du pied, qui forment une pression légère mais ferme, qui vont de haut en bas, de droite à gauche, et forment de petits cercles. Et maintenant, prenez quelques instants pour masser chaque orteil pendant quelques secondes, en partant du petit orteil du pied droit et en allant jusqu'au petit orteil du pied gauche. Laissez-vous aller complètement à la détente et ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration pendant quelques instants. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Les gens trottaient plus gais, un rayon éclairait le regard des filles, et leurs narines minces et roses avaient d'aimables petits frissons, comme si par-dessus les fortifications, la ceinture des bois qui regarde du haut des collines envoyait jusque dans Paris un parfum de bourgeons naissants et de violettes en train d'éclore. Tout ragaillardi, pour ma part, et désireux de rendre au printemps ses avances, je m'étais assis à la terrasse d'un café, terrasse d'ailleurs abritée, formant en arrière du trottoir une manière de véranda avec deux énormes fusains en pot, dont les feuilles lavées dès le matin par un astucieux limonadier donnaient vraiment l'illusion du renouveau et de la verdure. Je me trouvais dans cet heureux équilibre qui, à propos d'un rien entrevu, procure des joies infinies et vous intéresse à ce monsieur inconnu, là-bas, à la feuille que le vent emporte, à l'apparition du moineau qui, entre deux roulements de voiture, se détache d'une corniche et s'abat brusque sur la chaussée. Les moineaux, surtout, m'intéressaient. Mis en appétit par le soleil, croyant au printemps eux aussi et fort étonnés de ne rien trouver ou pas grand-chose, ils grattaient le pavé furieusement, bruyants, ébouriffés, et jetant au ciel ailes et becs ouverts des protestations indignées. Le ciel les entendit. Un patronné passa jeune, candide comme un lys, et portant par-dessus sa toque en équilibre une manne d'osier où fumaient des petits fours. Il marchait les mains dans les poches, car un patronné se jugerait déshonoré si portant sa manne en équilibre il ne marchait pas les mains dans les poches, et il allait pensif, indifférent au bruit des foules, car tous les patronnés sont pensifs depuis que de récents événements ont donné à leur corporation une place importante dans l'État. Un chien le heurte, la manne tombe, le patronné objurgue le chien. Puis il ramasse ses petits fours, souffle dessus pour faire s'envoler le sable, et tout remis en ordre, la manne rechargée, il part, grave et plongé de plus en plus dans ses réflexions politiques. Un des petits fours était resté sur le trottoir, brisé en trop de fragments pour que sa reconstitution fût possible. Quelle aubaine ! Comme les héros autour de Troie, 20-30 moineaux soudain assemblés se livrent de grandes batailles autour de cette croûte au ton roux et fuient l'un après l'autre, fiers et portant au bec une miette légère couleur d'or. La place nette et les moineaux disparus, je me mis à regarder les voitures. Une venait assez lentement, la rue à cet endroit montant un peu, et par la portière de gauche s'envolaient en tourbillon blanc des morceaux de papier déchiré menu. Quelqu'un, évidemment, occupait les loisirs d'une locomotion matinale à dépouiller ainsi son courrier, réservant les pièces d'importance et jetant au vent d'une main distraite les lettres qu'on ne garde point. Que de serments et de secrets, que d'angoisses et d'espérances s'entassent comme dans les bois la feuille morte pour faire l'humus parisien. Tout à coup, ceci est long à raconter, mais dut se passer en moins d'un quart de minute. Tout à coup, je vis s'échapper de la portière non plus de voltigeants petits papiers, mais une lettre tout entière, froissée, tassée, roulée en boule. Au moment même, la tête du voyageur apparut, un lorgnon, un cigare et des moustaches noires. Regrettait-il un moment d'injuste impatience? Voulait-il arrêter, retrouver sa lettre? Mais le cheval, entre-temps, filait toujours. Le voyageur réfléchit sans doute aux idées qui suggéraient à son cocher la puérilité d'une telle action, et après avoir ébauché un geste hésitant, il se renforça dans sa voiture. La boule allait, venait, poussée par le courant d'air, et je me la figurais roulant à l'égout ou piquée au bout du croc d'un chiffonnier. Quelqu'un l'aperçoit et la ramasse, un de ces trottins d'atelier qui parcourent la capitale, traînant à leurs bras des cartons aussi hauts que des tambourins. Tout au plus 16 ans, mais la joue pâlote et des yeux déjà renseignés, moins une fillette en somme qu'une miniature de femme. Elle la ramasse, elle la lit, elle sourit. Puis elle regarde le café, consulte son porte-monnaie, et finalement vient s'asseoir à une table, la seule libre, près de celle que j'occupais. Tout en tenant un journal, j'observais. Qu'allait faire cette gamine? En quoi une lettre trouvée par hasard lui importait-elle? Pourquoi, en même temps qu'une bavaroise et qu'une brioche, demandait-elle de quoi écrire et, toute rouge, toute émue, se mettait-elle à la recopier? D'un autre côté, comment savoir et de quel droit l'interroger? J'essayais de me consoler par le raisonnement. Ne coudoie-t-on pas à chaque minute des mystères dont nous ne pénétrerons jamais le secret? Il faut croire que le hasard me voulait du bien ce jour-là. À un mot sans doute difficile, la petite femme était restée hésitante, la plume en l'air. Elle consulta le plafond, mais le plafond ne lui répondit rien, quoique peint à fresque. Alors elle me regarda, et rassurée, j'imagine, par la pointe grisonnante de ma barbe, « Monsieur, » me dit-elle. « Monsieur, oui, mademoiselle, excusez-moi, monsieur, mais peut-être pourriez-vous m'expliquer ce mot que je ne comprends pas ?» Elle me tendait la lettre d'une main et posait de l'autre son index sur le mot qui la rendait perplexe. Feignant de chercher, je pris le temps de parcourir la lettre avant de répondre. Le papier, d'une exquise nuance éteinte, sentait bon. Dans le coin, un chiffre discret semblait indiquer la grande dame. Quant au contenu, l'éternelle lettre des fins d'amour, à la fois suppliante et irritée, des reproches et des serments, des souvenirs, rappelés et des injures, mais le tout pas banal, touchant d'une belle flamme passionnée. Le mot en question était « nuitamment », car vous m'avez nuitamment et lâchement abandonné. J'expliquais donc ce que le mot « nuitamment » signifiait. « Alors, monsieur, nuitamment signifie « pendant la nuit ». Je me disais bien qu'il me faudrait changer cela. Ce n'est pas la nuit, hélas, que Jacques m'a abandonné, mais en plein jour, dans une partie à nos gens. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pour rien du tout, à peine une scène. » La glace était rompue, les confidences commençaient. « Pardon, mais à mon tour, pourrais-je savoir, mademoiselle, pourquoi vous recopiez ainsi avec tant de soin et tant d'âme cette lettre qu'un passant a jetée et que je vous ai vue ramasser? Vous m'avez donc vue, » fit-elle en rougissant. « Dans ce cas, je vais vous raconter, c'est bien simple. Depuis que nous nous sommes fâchés l'automne dernier avec Jacques, je voulais toujours lui écrire et j'ai passé un triste hiver. J'avais des idées plein la tête, des idées superbes, monsieur, qui me faisaient pleurer la nuit toute seule. Mais le matin, quand je prenais la plume, rien ne coulait sur le papier. J'ai cherché dans le secrétaire des parfaits amants, je n'ai rien trouvé qui m'alla. On m'a conseillé un écrivain public, Il m'a fait payer 30 sous, ne m'a donné rien de bon, et ce que son échoppe sentait le tabac. Quelque chose, tout à l'heure, m'a dit de ramasser ce papier qui roulait, et jugez monsieur de ma joie, en voyant que c'était une lettre et que cette lettre semblait tomber du ciel, exprès pour moi. Car c'est tout à fait ça, monsieur, vous ne pouvez pas vous figurer comme c'est ça. Vous m'avez nuitamment et lâchement abandonné. Il n'y a que nuitamment qui me gêne. Au lieu de nuitamment, je vais mettre à la clarté du jour. C'est même plus gentil. À la clarté du jour, lâchement, tu m'as abandonné. Parce que voyez-vous, moi je tutoyais Jacques. Et maintenant, monsieur, je vous remercie encore une fois. Consolée déjà joyeuse à l'idée de la réconciliation, elle acheva sa lettre et mit sur l'enveloppe l'adresse de Jacques. Moi, je regardais la fille et songeais au moineau, me disant qu'en fin de compte, tout s'arrange, et que la question sociale serait encore bien autrement aigre qu'elle n'est, si une vague providence du haut d'un empiré que j'ignore ne s'amusait pas à rendre les humbles heureux avec les miettes du festin des riches.
Bonne nuit. Bonne nuit.